Voix Afrique, les infos. À Washington.
Au micro, Nani Talani, il est 13h en temps universel, 16h à Mogadiscio, en Somalie. Bienvenue à ce journal. Au Kenya, le programme de rapatriement des réfugiés somaliens ne respecte pas les normes internationales. Cette accusation a été émise ce jeudi par Human Rights Watch, une organisation internationale de défense des droits de l'homme. D'après cette ONG, le programme de rapatriement des Somaliens réfugiés dans le camp de Dadaab, dans le nord-est du Kenya, est basé sur la peur et la désinformation et ne respecte pas les critères internationaux. C'est le plus grand camp de réfugiés du monde avec 263 000 personnes. Les autorités kenyanes ne donnent pas aux réfugiés somaliens un choix réel entre rester et partir. Et l'agence aux réfugiés de l'ONU ne donne pas aux gens d'informations précises sur les conditions de sécurité en Somalie, déplore Bill Frelick, directeur du programme Réfugiés. Lors d'une visite dans le camp en août 2016, Human Rights Watch avait recueilli des témoignages des réfugiés dénonçant les intimidations dont ils seraient victimes de la part de l'administration kenyane. Il regrette aussi l'absence d'informations de la part du Haut Commissariat aux réfugiés sur toute solution de rechange qui leur permettrait de rester au Kenya, ainsi que sur la situation sécuritaire en Somalie. Et donc ces retours ne peuvent en aucun cas être considérés comme volontaires. En RDC, les négociateurs du dialogue national annoncent avoir trouvé un accord sur la séquence des élections à venir dans le pays, mais n'ont pas fixé de date. Bagasikoura, c'est ce point qui constituait le blocage sur la tenue du dialogue national.
Oui, parce que pour l'opposition, qui avait suspendu sa participation au dialogue lundi, il y avait une divergence de vue non négociable avec la majorité sur la priorité à accorder à l'élection présidentielle. Cet accord doit donc permettre la reprise des travaux de ce forum cet après-midi. Au terme de l'accord, la présidentielle, les législatives nationales et les législatives provinciales se dérouleront exactement le même jour, a déclaré à la presse le ministre de la Justice Alexis Tambwe Mwamba, co-modérateur du dialogue pour le compte de la majorité présidentielle. Les deux parties ont indiqué qu'elles laisseraient le soin à la Commission électorale nationale indépendante de fixer la date à laquelle se tiendront ces scrutins en fonction du temps nécessaire à la constitution de listes électorales fiables. Avant la suspension des travaux, la délégation de l'opposition insistait pour tenir en priorité la présidentielle. La majorité, au contraire, affirmait qu'il faudrait tenir cette élection après l'organisation de tous les autres scrutins en retard.
Au Bénin, le gouvernement a suspendu 3 responsables administratifs de la localité de Tori, où une explosion à la décharge d'incinération de produits avariés a fait 16 morts et 92 blessés vendredi, selon un nouveau bilan officiel. La décision a été prise à l'occasion du Conseil des ministres tenu hier. Ainsi, le commissaire de Tori, le chef de la brigade de gendarmerie et le chef du dépôt des douanes ont été relevés de leurs fonctions. Le ministre de la Justice, Joseph Diogbenou, a été chargé d'accélérer l'enquête judiciaire entamée et de faire ouvrir des procédures à l'égard de toutes les personnes impliquées dans le drame. Le promoteur de la décharge n'a pas obtenu au préalable l'agrément nécessaire pour l'exercice de cette activité. C'est ce qu'a relevé Pascal Irénée Koupaki, secrétaire d'État à la présidence. Le rapport établit aussi que la procédure de destruction des produits avariés n'a pas été respectée et que l'opération n'a pas été sécurisée à la mesure des risques potentiels. Toujours au Bénin, l'économie va mal. Plusieurs sociétés pourraient ne pas survivre dans le climat actuel des affaires. Un peu plus de 5 mois après son accession à la présidence, l'homme d'affaires Patrice Talon s'évertue toujours à mettre en œuvre ses réformes institutionnelles et politiques. Écoutez le cri de cœur d'Epiphane, jeune entreprise, au micro de Ginette Fleur Adondé.
Le peuple aujourd'hui qui crie, mais c'est aussi une démarche que moi j'apprécie parce que c'est une démarche d'alerte pour dire mais attention, nous avons faim. Et c'est vrai, tu fais des réformes institutionnelles, politiques, etc. Mais nous avons faim. La nourriture, l'alimentation, c'est capital. Si vous promettez à un peuple le changement des systèmes macroéconomiques, microéconomiques, c'est bon. Mais si ce même peuple n'a pas mangé, quelle que soit la qualité des réformes que vous opérez, le peuple va toujours crier. Et donc, ce qu'il subit aujourd'hui, il devra savoir que c'est la conséquence de ce que notre pays avait toujours été.
C'était Epiphane, un jeune chef d'entreprise au micro de Ginette Flore à Dondé. Boko Haram a posté une nouvelle vidéo sur YouTube à l'occasion de l'Aïd al-Adha, mais Aboubakar Shekaou, son chef historique, n'apparaît pas sur cette vidéo. Qu'est-il advenu de lui ? Tentative de réponse avec l'ancien recteur de l'Université de Lagos, le professeur Tundonou.
Ça m'étonnerait qu'il soit encore en vie, parce que les tellement fanfaron que si effectivement il était en vie, il ne manquerait pas l'occasion de venir se moquer des autorités. Et je crois que la mise en scène, je crois que cela va dans le sens de ces gens qui sont vraiment aux abois. Ils savent que ça ne va pas durer très longtemps et bien évidemment, l'armée nigériane a gagné du terrain. La fameuse forêt de Sambisar est déjà encerclée et avec les moyens technologiques qu'on connaît désormais à l'aviation nigériane, je crois que tout ceci va rentrer dans l'ordre très très prochainement.
C'était le professeur Tundonou Amousso, ancien recteur de l'Université de Lagos. La fragile trêve des combats en Syrie a été prolongée de 48 heures par les Américains et les Russes, mais l'aide humanitaire promise et tant attendue n'a toujours pas été distribuée. La situation restait globalement calme ce jeudi matin pour le troisième jour consécutif, confirmant la nette décrue de la violence depuis l'entrée en vigueur de la cessation des hostilités lundi soir. Mais dans la partie rebelle de la ville d'Alep, la principale concernée par l'accord, l'impatience croît chez les 250 000 habitants qui sont assiégés depuis 2 mois et qui manquent quasiment de tout.
VOA Afrique en direct de Washington.
En Israël, l'ex-président et prix Nobel de la paix, Shimon Peres, restait dans un état grave jeudi, mais son médecin personnel a fait état d'une réelle amélioration, l'incitant à un optimisme prudent pour cette personnalité historique respectée en Israël et à l'étranger. Monsieur Peres, âgé de 93 ans, a été victime mardi après-midi d'un accident vasculaire cérébral majeur, faisant craindre pour la vie du dernier survivant de la génération des pères fondateurs de l'État d'Israël, qui fut aussi l'un des principaux artisans des accords d'Oslo signés avec les Palestiniens dans les années 90. Ici, aux États-Unis, présidentielle américaine 2016, l'ancien secrétaire d'État Colin Powell a exprimé une opinion négative de Donald Trump et d'Hillary Clinton. Le point avec Timothée Donongmai.
Des emails de M. Powell, piratés et publiés sur Internet, révèlent son opinion très négative tant au sujet d'Hillary Clinton que de Donald Trump. Il réserve ses mots les plus durs pour le candidat républicain qu'il a qualifié de disgrâce nationale et de paria international. Colin Powell s'est aussi plaint de Mme Clinton, lui reprochant d'avoir utilisé un serveur privé pour ses communications au département d'État plutôt que le réseau gouvernemental sécurisé. Je n'ai jamais dit à Hillary d'avoir un serveur privé à la maison connecté à la Fondation Clinton, écrit Powell dans un email, démentant ainsi les propos de Mme Clinton selon lesquels elle a pris conseil auprès de Powell concernant l'utilisation d'un serveur privé.
Après une série de mauvaises nouvelles concernant la Fondation Clinton, c'est au tour de son adversaire Donald Trump de faire face à de nouvelles questions concernant sa fondation caritative.
L'État de New York a ouvert une enquête suite aux allégations selon lesquelles l'homme d'affaires new-yorkais n'a pas fait de contribution financière en faveur de cette fondation depuis 2008 et qu'il aurait utilisé l'argent de cette fondation pour acheter son propre portrait grandeur nature. Nous sommes en train d'examiner la Fondation Trump pour nous assurer qu'elle se conforme aux lois relatives aux œuvres caritatives dans l'État de New York, a fait savoir Eric Schneiderman, ministre de la Justice de l'État de New York. Ce dernier avait déjà accusé l'Université Trump de fraude, des accusations rejetées par le candidat républicain.
Toujours aux États-Unis, en tout cas pas de grâce présidentielle pour Edward Snowden, l'ancien consultant de la NSA qui vit aujourd'hui en Russie. Il doit être jugé et cette position a été réaffirmée hier par la Maison-Blanche à la suite des appels lancés par plusieurs associations de défense des libertés au président Barack Obama. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve dans moins d'une heure pour un nouveau point sur l'actualité. Mais restez à l'écoute de La Voix de l'Amérique. Plus d'informations sur notre site internet www.voaafrique.com et aussi n'oubliez pas de visiter notre page Facebook où vous pouvez laisser des commentaires et faire peut-être des suggestions.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.